France Inter, le 7-9.
Il est 7h49, Alexandra Ben Saïd. Votre invité ce matin est candidat sur la liste Renaissance de la République En Marche aux élections européennes.
Et en 12e position, donc plutôt éligible. Bonjour Gilles Boyer.
Merci, bonjour.
Bon, ça y est, le projet du camp présidentiel est disponible. Ouais. Qu'est-ce que vous vous dites? Ça sera moins difficile pour la campagne? Vous croyez un nouveau départ?
Un nouveau départ, d'abord pour la campagne, c'est anecdotique, et surtout un nouveau départ pour l'Europe, c'est ce à quoi nous aspirons, entre ceux qui veulent le statu quo, ceux qui co-gèrent l'Union européenne depuis 40 ans, avec des réussites, que Dominique se rappelait, et aussi des échecs sur l'incarnation de l'Europe politique, et entre ceux qui veulent déconstruire l'Union européenne, nous pensons à un troisième chemin, donner une nouvelle ambition à l'Europe, donner au président les moyens de son ambition européenne, et surtout adapter l'Union pour lui permettre de relever les défis du monde moderne. Elle a été conçue dans les années 50, à une époque où il n'y avait ni défis climatiques, ni défis migratoires, ni compétition commercial mondial. C'est le moment pour un renouveau européen.
Alors justement, on va parler de ce programme, vous parlez des défis climatiques. On a tous bien compris que l'écologie est désormais en première position sur la liste LREM. Quelles mesures phares ?
Là-dessus, je réfute le terme de conversion que j'ai entendu dans la bouche de Thomas Legrand. J'ai pu témoigner dans mes fonctions à Matignon, que j'ai quitté pour faire la campagne. Que
vous étiez conseiller politique.
Conseiller politique d'Édouard Philippe, que la préoccupation écologique était majeure. Et que quand on est au gouvernement de la France, concilier le court terme, le long terme, concilier le local et le global, c'est difficile. Et qu'au-delà de l'idéal, qu'on poursuit tous, et que Nicolas Hulot nous a aidés à poursuivre, il y a une réalité qui fait que quand on ferme une centrale à charbon, mais derrière, il y a des emplois, il y a des familles qu'il faut accompagner. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc quand on est au gouvernement de la France, c'est une préoccupation qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte, qui aujourd'hui...
Vous êtes vert depuis 2017 au gouvernement.
Mais écoutez...
Parce que Nicolas Hulot, il ne l'a pas vu. Il y a 9 mois, on se souvient, il était sur votre fauteuil, la démission a été fracassante.
Il a démissionné après avoir fait beaucoup de choses, et c'est vrai que Nicolas Hulot est porteur d'un idéal qu'on connaît tous, il est passionné, et il est d'une certaine manière à fleur de peau par rapport à ça, et je crois que dans des fonctions ministérielles, il avait fini par voir uniquement les choses qu'on ne faisait pas, et en occultant ce qu'on faisait, parce qu'à ses yeux, ça n'était jamais assez. Et c'est éminemment respectable.
Alors quand même, sur les objectifs, par exemple, objectif européen sur le glyphosate, vous voulez en sortir d'ici 2021. Ça, c'est quand même beaucoup plus ambitieux que ce que l'exécutif a permis d'écrire dans la loi française.
C'est une mesure qui est nécessairement européenne. Nous ne voulions pas placer les agriculteurs français en situation de distorsion de concurrence par rapport à nos voisins. C'était absurde. C'est évidemment une mesure qui doit être prise au niveau européen. Nous sommes tous d'accord sur l'objectif. Le gouvernement français est aux premières loges. C'est le gouvernement français qui a obtenu qu'on renouvelle l'autorisation du glyphosate pour une durée plus courte que celle qui était prévue. L'Union européenne voulait faire 10 ans, nous avons obtenu 5 ans et nous avons maintenant un objectif plus ambitieux qui est d'arriver à cette interdiction dans 2 ans et tout le monde est d'accord là-dessus.
Une autre mesure phare, Gilles Boyer, sur l'écologie?
Là-dessus, c'est les 1000 milliards d'euros d'investissement dans l'économie verte. Alors 1000 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, hein. Ça fait 200 milliards pardon, d'euros par an d'ici 2024 pour remettre l'écologie dans la priorité du budget européen. Aujourd'hui, ça n'y est pas. 40% du budget européen devrait, à notre avis, être consacré à l'économie verte et à la transition écologique. Et c'est ensuite arrêter les subventions aux énergies fossiles. 340 milliards d'euros de subventions aux énergies fossiles en Europe. C'est une absurdité eu égard à l'enjeu et à ce que nous vivons.
Et donc la question des frontières, elle devient moins prioritaire dans ce programme?
Il faut bien mettre quelque chose en premier. Si on avait mis les frontières en premier, vous m'auriez dit, alors vous copiez le Front National ou les Républicains. Et il faut bien mettre quelque chose en premier. La transition écologique vient en premier, en effet, c'est un dossier majeur. Nous serons plusieurs élus, j'espère, sur notre liste, et donc nous pourrons nous répartir les dossiers. Et évidemment, la question des frontières, de la refondation de l'espace Schengen, de la protection de nos frontières extérieures, est un enjeu majeur, et ce sera un enjeu majeur pour réconcilier l'opinion publique européenne avec l'Union.
Il y a aussi le dumping social. Votre mesure phare, là, c'est le SMIC européen. Franchement, le salaire minimum, il existe déjà dans 22 pays. En quoi ce SMIC européen, ça a amélioré les choses?
Je pensais que vous y seriez plutôt favorable. S'il existe dans 22 pays, c'est qu'il n'existe pas dans 6 pays. Et donc c'est déjà un bon objectif d'avoir un salaire minimum qui soit évidemment aux proportions du revenu moyen dans tous ces pays. Ça n'existe pas dans 6 pays. Est-ce que vous trouvez que c'est un progrès?
En Bulgarie, c'est 286 euros.
Et donc
ça satisfait déjà à vos critères? Qu'est-ce que ça changerait de dire il faut un SMIC européen?
Mais la vocation de l'Union européenne, c'est une convergence sociale par le haut. D'accord, c'est l'objectif de l'Union européenne. Quand j'entends Monsieur Dupont-Aignan dire qu'il faut qu'on garde notre argent pour nous, c'est une drôle conception de la vie. Ça veut dire que les riches doivent garder leur argent et que les pauvres doivent continuer à l'être. C'est ça l'idée. Notre idée, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat et les conditions sociales, de vie sociale, dans tous les pays de l'Union, y compris ceux qui nous ont rejoints. Et s'ils ne nous avaient pas rejoints, où seraient-ils ces pays? Ils seraient aujourd'hui dans l'orbite russe. Est-ce qu'on s'en porterait mieux? Je vous pose la question.
Gilles Boyer, de toute façon, oui. Sur tous ces thèmes, sur tous ces engagements, sur toutes ces promesses, il y a la question de la faisabilité. Alors, pour la fiscalité, il y a la question de la faisabilité. Donc, par exemple, sur la fiscalité, on a la règle de l'unanimité. Sur Schengen, on voit bien que ça patine depuis des années. Sur le SMIC européen, c'est de compétence nationale. Qu'est-ce qui vous fait croire que ces promesses, ou qu'est-ce qui ferait croire aux électeurs que ces promesses peuvent être réalisées?
Mais alors quoi, on se résigne, on fait plus rien? La politique, c'est une volonté, c'est un chemin, c'est des objectifs. Le président fixe un cap et nous, notre mission au Parlement européen, ce sera de porter ces idées et de convaincre nos partenaires. Sinon, on arrête tout. Sinon, on arrête de s'engager, on arrête de faire de la politique.
Mais quelle capacité?
Bien sûr que ce sera difficile.
Avec qui? Dans quel groupe?
Dans quel groupe? Nous sommes en train de constituer un groupe central qui sera élargi à partir du groupe actuel des libéraux et des démocrates. Nous aspirons à y être la délégation nationale la plus importante, à en modifier le centre de gravité politique et à attirer à nous des élus qui n'y sont pas aujourd'hui, mettre fin au duopole des chrétiens démocrates et des sociaux-démocrates qui co-régissent le Parlement européen depuis maintenant 40 ans, constituer un groupe charnière qui sera incontournable dans toute coalition politique.
Le pourrez-vous avec une liste de petits nouveaux? Je lisais Alain Lamassoure, eurodéputé historique, qui a constaté pendant tous ses mandats que les Allemands sont très puissants. Alors eux, ils ont une formule pour leur liste. Ils ont un tiers de vieux routiers, un tiers de sortants, un tiers de petits nouveaux. Et ils ont le pouvoir à Bruxelles. Ça n'est pas votre cas.
Ah, il faudra.
Vous n'avez jamais, vous-même jamais été élu.
Non, certes, mais enfin, écoutez, quand vous avez quelqu'un devant vous qui a fait plusieurs mandats, vous lui dites « est-ce qu'il serait pas le temps de passer la main ?» Et quand vous avez quelqu'un qui n'en a eu aucun, vous lui dites « vous n'avez pas d'expérience ». Il faut choisir. Moi, j'ai 47 ans et 10 mois. La moyenne des candidats en France, c'est 47 ans et 9 mois. Donc, on peut dire que pour la première fois de ma vie, je suis au-dessus de la moyenne. J'ai jamais eu de mandat électif, c'est tout à fait vrai, mais j'ai une petite expérience en politique. Nous avons des sortants sur notre liste. Nous avons Pascal Canfin qui, lui, a autrefois siégé au Parlement européen. Donc, je suis tout à fait confiant.
Il y en a pas beaucoup sur la liste. Hein. Dans les 15 premiers, il y a pas beaucoup de sortants. Il y a pas beaucoup d'expérimentés.
S'il y en avait beaucoup, vous me diriez, alors le renouvellement, il est où?
Un mot sur la liste portée par François-Xavier Bellamy. Vous étiez républicain jusqu'en juin 2017. Ouais. Est-ce qu'il arrive avec 14% d'intention de vote? Est-ce qu'il est en train d'arrêter l'hémorragie?
Oui, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Il y a un an, les intentions de vote pour les LR étaient au même niveau. Ensuite, ils sont descendus à 8, ils sont revenus à 14. Donc, vous appelez ça comme vous voulez. Arrêter l'hémorragie, en effet, ça reste 6 ou 7 points de moins que le score obtenu par les Républicains il y a 5 ans aux élections européennes. Ça reste 6 ou 7 points de moins que le score du candidat LR François Fillon à la présidentielle. Donc, s'ils s'en satisfont, tant mieux, tout le monde est content.
Et un dernier mot sur vous, Gilles Boyer. Oui. On est quand même à mi-mandat. Vous venez de passer 2 ans à Matignon.
Oui.
C'est quoi votre bilan?
Bah écoutez, j'ai vu, d'abord j'étais très fier d'accompagner Édouard Philippe dans ses fonctions, vous savez que il est arrivé à Matignon un petit peu à la surprise générale et il était très peu connu des Français. Et je crois qu'il a noué d'abord avec le président de la République une relation de confiance, ce qui est la première condition pour bien vivre dans ce poste et pour y vivre durablement. Ensuite, il a démontré sa capacité à animer une majorité dont il n'est pas l'émanation, ce qui est une autre originalité de ses fonctions. Et enfin, et surtout, il est, je l'ai senti, parfaitement à l'aise avec ce qu'il fait, dans la droite ligne de ce que lui et moi avons toujours défendu, chacun à notre place, depuis 15 ans, aux côtés d'Alain Juppé, dont nous avons été très proches.
Donc pas de tentation du Havre?
Non, mais il a toujours beaucoup d'attachement pour sa ville, dont il est d'ailleurs resté conseiller municipal.
Gilles Boyer, lui-même candidat sur la liste Renaissance LREM aux européennes, merci d'avoir été sur France Inter.
Merci à vous, bonne journée.
Merci Alexandra, tout à l'heure 8h20.